Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. C'est Louis du Zoom Écologie pour l'émission L'Arpentaire. Il est 20h30 et ce soir, on vous a concocté avec Lisa une petite création sonore soignée aux oignons. Vous m'en direz des nouvelles, évidemment, à partir de plusieurs enregistrements des rencontres bio-régionales, du 20 et 21 janvier dernier, qui avaient lieu à l'Académie du Climat. Donc l'objectif de ces deux journées de janvier, c'était de préciser donc un horizon bio-régional en mêlant les approches revisitant l'histoire et en recensant les tentatives en cours en Europe à partir de témoignages et de partages d'expériences. Donc on écoute ça tout de suite après le générique avec L'Arpentaire.
Arpentaire, une émission du Zoom Écologie, tous les deuxièmes jeudis du mois, sur Radio Fréquence Paris Pluriel.
Bonjour à toutes et à tous, oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être aussi nombreux. Ça fait des années que je n'avais pas vu autant de monde réunis pour discuter, débattre. Et donc ça me rappelle quand j'étais petit et qu'on appelait les personnes qui venaient des camarades. C'est un peu un vieux mot. Hein. Mais bon, je dois vous parler très rapidement de la préhistoire de la notion du régime. Donc je commencerai par 1516. Rassurez-vous, je vais aller au pas de course. Je commencerai en 1516 quand Thomas More publie l'Utopie. Déjà dans ce titre qu'il invente, il joue sur les mots en disant est-ce que c'est utopie ou utopie, c'est-à-dire est-ce que c'est le lieu du bonheur, le bon lieu, ou est-ce que c'est le lieu qui se trouve nulle part. Puisque, comme vous le savez, c'est un navigateur, Raphaël Claudel, qui découvre par hasard l'île d'Utopie où il n'y a pas de monnaie, où il n'y a pas de propriété privée, où il n'y a pas de guerre et de guerriers. Nous sommes en 1516, donc en fait, il s'oppose à ce qui est dominant dans sa propre culture, à lui qui est anglais. D'autant plus que c'est le moment où le mouvement des enclosures commence à se manifester en Angleterre, c'est-à-dire la confiscation des terres par les seigneurs, par la petite noblesse, la gentry. Et donc, ces paysans sont lâchés sur les routes et deviennent des vagabonds et vont aller peupler les workhouses, comme vous savez. Donc, la première fois dans l'histoire des idées que quelqu'un invente une autre société en la territorialisant. C'est-à-dire que c'est ça qui est important, c'est pas simplement un schéma d'une autre société, c'est que cette société-là est inscrite dans un territoire. Donc c'est localisé. Hop, je saute encore quelques années, on est toujours au 19e siècle, et là, on est en France. Il y a un penseur qu'on a un peu oublié, qui s'appelle Proudhon, qui va militer pour la décentralisation et la déconcentration des pouvoirs. Il est anti-étatiste d'une part, mais il est surtout opposé à l'accumulation de toutes les prérogatives sociales, culturelles, économiques, etc., de Paris. Et Proudhon va inspirer le mouvement régionaliste français. Le mot lui-même apparaît en 1893. Enfin, je n'ai pas le temps, malheureusement, d'entrer dans tous ces détails. Et il y a en même temps, dans le mouvement ouvrier français, une tentative de réfléchir à l'inscription aussi de nouveaux territoires. Je donne trois exemples. Les bourses du travail, et Fernand Pelloutier, c'est local. C'est pas comme ça en général. Bon, chaque ville peut avoir une maison des syndicats, on va l'appeler comme ça, si vous voulez, une maison du peuple. Bon. Premièrement, les universités populaires, qui naissent au même moment avec les musées du soir. Bon, tout ça, c'est pareil. C'est un endroit précis, ce n'est pas comme ça en général. Et puis, le troisième élément, les coopératives de production. Donc, vous avez là trois auteurs majeurs. Paul Brousse, qui est le premier théoricien du municipalisme, qui est avant que le terme, du reste, c'est lui qui a créé le mouvement des possibilistes. Ensuite, vous avez César de Pape, qui est un révolutionnaire belge, qui va faire toute une réflexion sur les services publics. L'eau, vous voyez, donc l'eau, l'énergie, l'alimentation, les pharmacies, tout ça devrait être communalisé, donc inscrit dans un territoire qui est le territoire communal. Et puis, vous avez Benoît Malon. Benoît Malon est un socialiste, un théoricien absolument remarquable, qui est spéciste, qui est végétarien, qui est écoféministe, tout ça, mais tous ces mots n'existaient pas encore, mais il faut pas qu'on oublie hein, cette histoire aussi riche. Bon. Et puis, j'en arrive à peut-être l'auteur le plus important lié à la région, il s'appelle Patrick Geddes, qui est un Écossais, biologiste de formation, vous voyez, biologiste, vous voyez l'écho avec la biorégion, bien sûr, botaniste, pédagogue, sexologue, urbaniste, etc., etc., un auteur absolument majeur, passionnant, qui avait comme ami Élisée Reclus, et Élisée Reclus lui souffle à l'oreille l'idée de s'intéresser à la région. Et Patrick Geddes, à ce moment-là, va théoriser cette notion de région, va écrire de nombreux textes sur qu'est-ce que c'est que l'étude régionale, et donc il va même faire une coupe géographique de ce qu'on appelle la section d'une vallée, c'est-à-dire qu'il explique comment on part de la source jusqu'à l'estuaire, et que là on va pouvoir inscrire dans la géographie et dans l'écologie de cette géographie, on va pouvoir inscrire les activités humaines. Vont considérer que les États américains de la Fédération américaine ne correspondent pas à la réalité vécue des gens. Et donc il faut rompre avec ce découpage administratif et essayer de valoriser de nouvelles régions. On va repenser autrement l'organisation de la nation. Une nation qui est découpée en régions. Alors certains théoriciens proposent 8-12 régions, d'autres 125, vous voyez, on a tout un éventail très intéressant. Et il va se bagarrer tout au long du XXe siècle pour défendre l'idée régionale, sauf qu'il y a la période qui est très intéressante à étudier aussi, qui est la période de Vichy, où là, Jean-Charles Brun va être adoubé par le maréchal Pétain, donc ça la fout mal, si je puis dire, pour essayer de réfléchir à un nouveau découpage régional de la France. Mais comme il est anti-nazi et qu'il s'oppose ouvertement contre l'antisémitisme ambiant, il ne sera pas du tout épuré. On va inventer ce terme. Il ne sera pas épuré de la libération. Le biorégionalisme, au moment même où la globalisation du capitalisme va finalement se débarrasser de la notion de territoire, il y a un appauvrissement de la notion de territoire. Dans le capitalisme, on délocalise les entreprises, on investit là, puis ailleurs, etc. Il y a une sorte de précarisation du territoire. Et puis, avec les migrations climatiques, économiques, de guerre, etc., nous entrons dans une nouvelle période où les déménagés, c'est une nouvelle catégorie d'individus, les déménagés vont être de plus en plus nombreux. Et ces déménagés seront aussi en quête d'un chez-soi, et ce chez-soi peut être la biorégion. Et dans la notion de chez-soi.
Arpentaire, une émission du Zoom Écologie, tous les deuxièmes jeudis du mois, sur Radio Fréquence Paris Pluriel.
Parler du région, il faut mieux parler à l'estomac des gens qu'à leur tête. C'est une hypothèse. C'est bien ça pour capter un peu l'attention. Cet après-midi, on va essayer. C'est coupé, ah non, c'est bon. On va essayer de s'intéresser à un croisement qui est celui donc, des liens entre la permaculture et le biorégionalisme. Car vous le savez tous et toutes probablement, nous avons plus de neurones dans l'estomac que dans le cerveau. Donc peut-être que si on veut vraiment parler du biorégion, il faut mieux parler à l'estomac des gens qu'à leur tête. C'est une hypothèse. Alors la permaculture, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Et si ce n'est pas le cas, ben, en gros, c'est des manières de faire de l'agriculture qui ne sont pas destructrices des milieux de vie, qui cherchent plutôt à enrichir la diversité existante, tout au moins à la préserver, et qui évite au maximum, qui évite complètement, d'utiliser des intrants extérieurs, principalement chimiques, pour créer de la subsistance. C'est la définition première, plutôt agricole, mais cette définition, qui nous vient des années 70-80, principalement d'Australie, elle s'élargit en fait aussi à tout un mode de vie. Ça veut dire que, à partir du moment où on met en place des systèmes de subsistance, des systèmes agroalimentaires qui prennent soin du vivant, bah, la manière dont on vit après, en tant que communauté, forcément, elle s'en trouve changée. Bill Mollison et David Holmgren, qui en sont les deux cofondateurs, s'appuyaient explicitement sur l'idée de biorégion. L'idée de biorégion, elle est pour eux fondamentale dans l'idée permaculturelle. On n'a pas forcément besoin d'utiliser le mot biorégion quand on fait de la permaculture, mais pour les gens qui ont inventé le terme, ça participait d'une hypothèse biorégionale. Notamment, par exemple, Bill Mollison, un des cofondateurs de la permaculture, qui écrit dans des ouvrages biorégionalistes, et avec même cette idée donc des liens qui existent entre le Congrès international de permaculture et les congrès biorégionaux nord-américains, et avec cette idée, donc il y a eu une invitation à un mariage entre la permaculture et la biorégion, qui date de 1988, avec l'idée qu'on pourrait peut-être se mettre à parler de permarégionalisme. Et pour un peu changer les règles du jeu, parce que sinon on va s'ennuyer, pour créer un peu de diversité dans cette unité, on va pas vraiment faire des binômes. Moi, je voudrais d'abord qu'on écoute parler les personnes qui ont le droit cet après-midi de parler 15 minutes, le plus longtemps, parce que ces personnes-là vont nous amener des histoires de vie, des témoignages, des manières de s'ancrer, de s'accrocher vraiment à des problématiques situées, et ça me paraît essentiel pour commencer la discussion. Je veux bien aussi que chacune et chacun d'entre vous se présente par lui-même et par elle-même, comme ça, ça m'évite de faire le MC trop longtemps.
Donc, bonjour. Tout le monde. Alors moi c'est Laura Schindler, et Laura Fontenery, ça dépend, j'ai deux identités selon que vous le disiez en italien ou en français, et je suis chargée de recherche au CNRS en sociologie de l'environnement. Moi je fais la rencontre tout de suite de la permaculture comme mouvement parce que par ma propre trajectoire personnelle je suis très mobile, je circule beaucoup entre l'Italie, le Portugal, l'Espagne et la France. Et je m'aperçois que dans tous ces contextes nationaux, il y a quelque chose autour de la permaculture, il y a des gens qui s'organisent autour de ce mouvement. Et donc, je m'intéresse tout de suite à la problématique de la circulation et à la problématique des traductions. C'est-à-dire que je m'intéresse à l'origine, donc à ce foyer australien où donc a lieu la systématisation dans un ouvrage qui est paru en 1978 de cette méthode de la permaculture. Donc je m'intéresse à cette situation australienne qui est assez intéressante, mais immédiatement cette situation australienne devient nord-américaine, devient nord-européenne, et via non seulement le réseau du biorégionalisme, mais aussi et surtout le réseau des écovillages. C'est ça la grande, le fort lien entre permaculture et mouvement des écovillages. Cette proposition-là commence à circuler partout dans le monde. Aujourd'hui, elle est présente un peu partout dans le monde. Et la chose sur laquelle je m'intéresse plus spécifiquement, c'est les formes de traduction qui sont données de la permaculture, c'est-à-dire que la permaculture est une méthode, mais est une méthode qui a aussi vocation à se décliner dans chaque contexte sous les formes où elle peut être le plus efficace possible, on peut dire. Il y a quelque chose de la permaculture qui ne veut pas trop figer le sens, notamment politique, qu'on peut donner à la permaculture, mais c'est plutôt pensé comme un outil qui peut justement aider une approche de la question écologique à partir de la problématique de la subsistance, c'est-à-dire poser la question écologique en cherchant le plus possible de ne pas séparer l'écologie comme problématique économique, on peut dire, et l'écologie comme problématique de notre relation à la nature. C'est ça aussi qui m'intrigue beaucoup de la permaculture, c'est la volonté de ne pas séparer la nécessité d'une forme de décentrage de l'humain dans la manière de concevoir l'écosystème, et en même temps reconnaître que l'humain, pour le besoin de subsister, transforme les systèmes et les écosystèmes, et qu'il est très important d'intégrer vraiment comme fondament de notre culture la capacité de concevoir nos systèmes de subsistance sous des formes le plus possible écomimétiques, c'est-à-dire en s'inspirant des manières dont on voit fonctionner des écosystèmes capables de durer dans le temps, et justement donc de aiguiser, on peut dire, cette intelligence de se rendre presque mimétique.
Tel geste correspond à tel animal, mais que vraiment les acteurs, les actrices et toutes les personnes qui étaient intéressées à le faire étaient incitées à se renseigner sur les animaux de la biorégion, à aller les observer dans les eaux ou à les observer en milieu naturel. Donc forcément, faire cette démarche, se renseigner sur quel animal habite dans la baie de San Francisco, est-ce que c'est des coyotes, est-ce que c'est des renards argentés, ainsi de suite, et de faire la démarche de se rendre capable de les observer, participe déjà à développer une sensibilité biorégionale et multispéciste. C'est un mot qu'on n'a pas employé aujourd'hui, mais je crois que chez ses fondateurs, c'était, même s'ils le formulaient pas en ces termes, c'était incontournable. Il y avait un changement de position de la condition animale qui était une partie centrale de leur démarche, et ça les amenait à avoir une extrême précision dans cette incarnation animale. Judy Goldratt, quand je l'ai rencontrée, elle était encore capable de nuancer différentes espèces d'oiseaux en fonction de la vitesse de leur patte.
On m'entend là? C'est mieux comme ça. Ok. Alors pour rendre hommage, justement, par exemple, hier, moi, j'étais chez des amis à Fontainebleau et je sors comme ça dans la rue et avec mon chien, Médor. Oui, c'est pas original, il s'appelle Médor. Mais bon, et je tombe sur quoi? Sur qui? Oui, un sanglier. Donc alors, il y a beaucoup de sangliers. Alors, à Fontainebleau, c'est pas très gênant. On y va dans la forêt, on est là pour ça. Mais, ça va. Très bien. Et mais il se trouve qu'à Marly, vous connaissez tous Marly, ou Montmorency, oui, qui est quand même à 10 km du périph', pas plus, il y a de plus en plus de sangliers. Enfin, c'est très dans une proximité. Et les sangliers sont devenus apparemment un problème. C'est ce qui se passe. Alors, je ne sais pas. On pourrait peut-être trouver des solutions. Alors, je ne sais pas, on pourrait peut-être rentrer en diplomatie avec les sangliers comme en parle Morisot. Hein? Et ça pourrait être une solution, non? Les chasseurs pourraient peut-être arrêter de nourrir les sangliers.
Ah oui, nous on aime bien ça quand même.
Non, je sais pas. Parce que maintenant, on est passé d'une portée à deux portées par an. C'est à peu près ça, non? Ceux qui sont au courant, c'est ça? Et on pourrait faire ça?
Ça, c'est une piste possible. Après, je pense qu'il y a un changement de mentalité qui est à réfléchir aussi. On parlait de métropole comparable à Berlin. Il y a entre 3 et 5 000 sangliers dans l'agglomération.
Carrément.
Ça ne génère pas les mêmes types de tensions qu'à Paris. Il y a une réflexion sur l'image qu'ils ont aussi qui est à avoir.
Oui, par exemple, comme il n'y a plus beaucoup de grands prédateurs en France, encore moins au pays de France, bon, qu'est-ce qu'on va faire des chasseurs, en fait sans les grands prédateurs.
Ben oui. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être introduire les prédateurs, les grands prédateurs en Île-de-France. C'est peut-être ça. Mais est-ce que finalement, les prédateurs seraient... Je ne sais pas quel genre de prédateurs. Des ours, des lynx? Ouais. Alors, on pourrait introduire les loups.
Bah, d'ailleurs, Morisot, qu'on citait tout à l'heure, dit bien qu'on peut essayer de rediriger les attaques de loups qui font tant de mal aux troupeaux de moutons sur les sangliers, ce qui résoudrait le problème.
Ouais. Des prédateurs de loups, on pourrait le réintroduire, mais est-ce que les prédateurs seraient d'accord? C'est ça le problème, hein?
Sinon, il faut au moins laisser tranquille les renards, parce que les renards, un renard adulte peut manger un marcassin, donc c'est toujours ça de pris sur l'espèce.
Carrément. C'est un marcassin?
Arpentaire, une émission du Zoom Écologie, tous les deuxièmes jeudis du mois, sur Radio Fréquence Paris Pluriel.
J'ai en effet travaillé sur le goët pendant 6 mois à peu près, et j'ai mené une étude qu'on peut qualifier de biorégionale. En fait, je me suis assez intéressée à la question suivante. Voilà, en quoi le courant de pensée biorégionaliste, il peut nous aider à penser les problématiques auxquelles nos sociétés font face aujourd'hui et à penser des pistes de résolution de ces problématiques-là. En tout cas, cette prolifération d'algues vertes, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène d'eutrophisation. Et ce phénomène d'eutrophisation, c'est un dérèglement du cycle biogéochimique de l'azote. Manifestation à échelle locale d'un déséquilibre qui lui est d'ordre global. À quoi est due cette prolifération? Donc aujourd'hui, on le sait, elle est due à un excédent de nutriments azotés. Et donc, par quoi est-ce que circule cet excédent? Quel est l'agent de transport de cet excédent? Et bien, c'est l'eau, justement. Donc, pour penser finalement la problématique de marée verte à l'échelle de la baie de Saint-Brieuc, et bien, en fait, il faut penser à partir des fleuves qui se jettent dans cette baie et qui transportent cet excédent d'azote qui, lui, arrive dans cette baie. Et donc, plus largement que ça, il faut penser à l'échelle de l'ensemble des réseaux hydrographiques, pardon, donc les fleuves et l'ensemble des affluents qui, eux, se jettent dans le fleuve, qui transportent cet excédent d'azote. Donc, finalement, un territoire qui est drainé par un fleuve et l'ensemble de ses affluents, c'est ce qu'on appelle un bassin versant, c'est l'entité bassin versant, ben, on voit bien que pour penser cette problématique-là, finalement, il apparaît pertinent de se placer depuis cette échelle qui est une entité biorégionale. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que donc cet excédent azoté, on sait aujourd'hui qu'il est très 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 majoritairement d'origine agricole. Et donc finalement, penser cette problématique-là, eh ben, c'est penser la manière dont on organise notre subsistance à l'échelle des bassins versants.
On travaille sur les questions biorégionales à travers des enquêtes de terrain qu'on mène soit dans le cadre de projets culturels, sous forme de résidence, soit plutôt sur des dynamiques militantes. Et du coup, on essaye de mêler les questions de lutte, du peuple, les enjeux artistiques et puis de réattachement au territoire par ces approches biorégionales. La première expérience, c'est une résidence qu'on a menée donc, avec le collectif Hydromonde en pays du Zès. Maëlle en parlait un peu ce matin. C'était une résidence de recherche-création qu'on a fait dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle le Parlement des liens. Donc le pays d'Uzès, c'était à l'échelle d'une communauté de communes dans le Gard. Et donc ce qu'on essayait de faire, c'était de mener une enquête biorégionale du point de vue des gens sur cette communauté de communes. Donc la première question, c'était qu'est-ce que c'est que mener une enquête biorégionale, qu'est-ce que c'est de se mettre du point de vue des eaux. Et donc ce qu'on a essayé de faire, c'était pendant plusieurs mois aller à la rencontre de tous les acteurs, actrices du territoire qui bossent sur ce sujet de l'eau, à la fois les acteurs techniques, mais aussi certains habitants, habitantes qui avaient des savoirs vernaculaires sur ces sujets-là, et de s'imprégner de toutes ces strates de l'eau. Et on s'est rendu compte donc, au fur et à mesure de notre enquête que la question de l'eau, c'est comme tout plein de sujets dans notre société, c'est vraiment c'est sectorisé entre l'eau potable, l'eau et les rivières, l'eau et l'agriculture. C'est pas du tout les mêmes personnes qui s'en occupent, et le porter à connaissance pour des habitants d'un territoire de ces sujets, il est extrêmement minime, quoi. Donc c'est très difficile de s'approprier cette question. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de croiser un peu toutes ces données, toutes ces infos qu'on a pu récolter en allant à la rencontre de personnes qui avaient des savoirs sur ces sujets, et de produire une petite expo où la question de la représentation était assez importante, c'est-à-dire qu'on a essayé de mettre en place des visualisations où on pouvait comprendre en quelques dessins d'ordre un peu général, comment est-ce que l'eau fonctionnait sur le territoire, comment est-ce que l'habitat se reliait à l'eau, comment est-ce que les questions agricoles elles se mêlaient à tout ça, et de faire voyager cette expo dans le cadre d'un petit festival qu'on a mené avec d'autres personnes sur le territoire qui s'appelait la Fête des Lavoirs. Donc on a restitué notre enquête en allant dans plusieurs petits lavoirs dans le territoire, dans différents petits villages. Et donc on montrait notre expo, on faisait une espèce de procession depuis la mairie jusqu'au lavoir, pour aussi retrouver des formes de rituels, des formes de réattachement à cette question d'eau, pour sortir justement un peu de la technique, quoi, et de rendre tout un petit peu festif. Et du coup, ce que ça produit, en tout cas en termes de modestement, mais en tout cas en termes de moments partagés dans ces lavoirs avec les gens, c'est vraiment déjà le partage des connaissances, le partage des histoires aussi sur cette question de l'eau, à travers différentes générations, des gens qui étaient élus dans les mairies, des gens qui, ont un puits chez eux et ont un truc à dire là-dessus. Enfin voilà, à petite échelle, ça a créé... En tout cas, nous, ça nous a permis de mettre un petit pied dans qu'est-ce que ça pourrait être une culture aussi de bassin versant, quoi, une culture de l'eau sur un territoire localisé où on parle ensemble de commencer dans notre village, de comment ça se relie.
Arpentaire, une émission du Zoom Écologie, tous les deuxièmes jeudis du mois sur Radio Fréquence Paris Pluriel.
Il est 20h58, bientôt 21h. Vous êtes donc sur l'Arpentaire de l'émission Zoom Écologie. Et tout de suite, on écoute Agua de Beber, donc une chanson d'un des fondateurs de la bossa nova brésilienne, Antonio Carlos Jobim. Donc c'est une chanson qui parle d'amour et qui nous parle par métaphore de la subsistance et de nourriture émotionnelle. Il est peut-être temps de parler des bassins versants de nos cœurs. En attendant, on écoute À boire camarade de Antonio Carlos Jobim.
Eu quis amar, mas tive medo. E quis salvar meu coração, mas o amor sabe segredo. O medo pode matar. Seu coração, água de beber.
C'était Agua de Beber et tout de suite la deuxième partie de l'émission Arpentaire avec une création sonore des rencontres biorégionales du 20 et 21 janvier dernier.
Lutte locale, espérance globale, c'était le nom de cet événement qu'on a choisi ensemble. Et en fait, moi, je me suis rendu compte, quand j'ai vu l'affiche et le truc, je me suis dit, il manque un truc, et je vais vous le dire dans le livre, ça sera vite de mon intervention, c'est résistance régionale, qui pour moi manque dans le titre de cet événement de ce week-end. Pourquoi? Parce que les luttes locales, espérance globale, en fait, c'était aussi un clin d'œil au slogan intermondialiste, à la vision intermondialiste, que les luttes locales, si elles se fédèrent toutes entre elles, elles peuvent former un intermondialisme, un autre mondialisme. Je pense qu'il y a des gens dans la salle qui ont participé à ce mouvement dans les années 90 et dans les années 2000, qui a principalement consisté à aller au contre-sommet des grands événements mondialistes. Donc, et le constat quand même qu'on peut faire aujourd'hui en 2024, maintenant, là, c'est que ce mouvement, il a certainement semé plein de choses, mais il a quand même relativement échoué au vu du désastre dans lequel on est actuellement. Il a un petit peu échoué. Et je pense qu'il a notamment un petit peu échoué parce qu'il n'y avait pas assez de pensée régionale, peut-être, dedans, et trop de local et de global, et ce grand écart entre le local et le global, pour moi, c'est un problème, parce que l'enjeu du régionalisme, je l'ai entendu un peu hier, c'est d'articuler les échelles, c'est de penser des échelles qui sont intelligentes pour faire se lier les gens entre eux, pour faire du réseau face au capitalisme qui, lui, est extrêmement bien, et l'impérialisme qui sont extrêmement bien mis en réseau. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Les régions, c'est le capitalisme qui les pense très bien. Et ça sera aussi un point important dans mon intervention. C'est pour ça qu'il faut résister régionalement, parce que le capitalisme et l'impérialisme sont organisés régionalement. S'il n'y a pas un pouvoir, un contrôle sur les populations, c'est à des échelles régionales que ça s'organise, c'est-à-dire par des formes de baronnie, par des formes d'organisation de pouvoir qui sont liées à des hiérarchies ancrées sur les territoires de proche en proche, en fait, le capitalisme, il ne tient pas.
Parce qu'il existe aujourd'hui des formes biorégionales qui sont constituées à partir des interstices qu'on peut relier avec une voiture entre différents écolieux, différentes mairies communalistes qui vont être sensibles à la question biorégionale, et puis des fermes, des ménages, en fait. Et donc tout ça, ça peut former des formes de biorégion. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que l'État s'attaque à la face immergée de l'iceberg, de luttes qui veulent précisément des terres qui sont proches les unes des autres. Et donc là, on est face à l'interdit majeur, et là, l'État met toutes ses forces de police possibles. Donc ça, c'est je pense, le levier foncier de la terre non interstitielle et non disséminée, il est majeur, et ça fait vraiment partie des manières dont l'État saccage
et
interdit, en fait, la lutte
biorégionale. Comment vont nos luttes aujourd'hui? Comment elles galèrent? On doit avouer que l'année dernière, ça a quand même... On a eu beau avoir été vaillants dans les rues, dans les champs, On s'en est pris plein la gueule et on n'a franchement pas gagné grand-chose. Voilà. Ça a été quand même une année assez violente. Enfin, moi, personnellement, j'ai vécu dans ma chair à plusieurs reprises et c'était pas cool. J'ai encore l'émotion dans ma voix quand, qui monte dans ma voix quand je pense à toutes les images de violence que j'ai pu vivre l'année dernière. Donc, le problème pour moi principal, et ce qui fait qu'on n'arrive pas, c'est que on arrive à faire un peu du spectacle. Mais pour moi, les deux plus visibles, c'est tout. C'est la France insoumise et les soulèvements de la terre. On est sur un fonctionnement vertical et qui est ancré sur une logique locale nationale, là où pour moi, il faudrait défendre beaucoup plus des formes d'organisation et de résistance régionale, continentale.
Cette répression-là, elle touche aussi des corps de métier. Et ça, c'est beaucoup plus silencieux. C'est des formes de répression administrative qui là, s'attaquent à un autre élément fondamental d'un territoire qu'on pourrait qualifier de paysan. C'est la chaîne des paysans artisans, si on repart historiquement, mais il y a tout simplement la chaîne des métiers qui permet de vivre avec la parcelle d'à côté, ou l'atelier d'à côté. Ben là, typiquement, on a des savoirs qui se sont spécialisés, des savoirs aussi genrés, qui ont été maxi-genrés. C'est-à-dire que je pense à un savoir tout simple, qui est le savoir ménager, qui est ni plus ni moins le savoir du territoire proche, puisque quand on s'occupe des matières et de leur distribution en fait dans un espace, dans un rayon proche, puisque le travail ménager domestique est fondé sur cette capacité-là, de voir qui a besoin de quoi au bon moment, avec quelle matière, en quelle saison, et avec ce qu'il est possible de faire à ce moment-là, ben, ce savoir-là, c'est méga genré. Vous vous trouvez avec des hommes happés par l'exode rural et l'industrialisation, ou des métiers à talent, comme on dit, hyper spécialisés, ingénieurs, avocats, agronomes, urbanistes, etc. Et puis de l'autre côté, un genre qui méga genré, qui sont ces femmes à qui on va expliquer, vous allez devoir vous occuper de ce territoire très proche, la main dans la matière, et puis il y a surtout des hommes qui vont être appelés pour travailler assez loin, et qui donc dans leur voiture ne peuvent pas veiller à cette veille du territoire, et donc ils font biorégion à leur manière, mais une biorégion complètement terrassée. Là.
La révolution industrielle, souvent, elle présente une révolution urbaine, évidemment. Sauf que cette révolution industrielle, elle en présuppose une première, en fait, qui est la révolution, une transformation radicale, une destruction, on peut même dire, des sociétés et des territoires paysans. Et on a toujours cette idée, en fait, que les campagnes, elles ne sont pas tellement bougées. Et il n'y a rien de plus absurde, en fait, et plus idiot comme idée. Pourquoi? Parce qu'en fait, la destruction des sociétés paysannes, elle est juste monumentale. Ça veut dire qu'il faut considérer que un des éléments clés, en fait, de subsistance des sociétés paysannes, c'est quoi? C'est la haie. Donc, c'est là, en fait, sur deux siècles, on a arraché 2 millions de kilomètres linéaires. Donc, c'est quand même pas rien. Vous rajoutez, prenez la gueule de la France aujourd'hui, vous rajoutez 2 millions de kilomètres de haie. Ça change un peu tout.
Et donc, ce travail de recréer une attention territorialisée qui redistribue le travail de veille du proche, ça s'appelle du travail de subsistance qu'il va falloir réinventer dans un territoire absolument dépeuplé et des familles nucléaires extrêmement habituées à déléguer le travail de subsistance à des machines tout d'abord, mais surtout à des ouvriers et des ouvrières qui, à l'autre bout de la planète, accomplissent un travail de montage, d'assemblage, d'extraction des matières nécessaires pour fabriquer du prêt à poser, du prêt à manger, qui ensuite nous revient dans nos assiettes et nous permet de libérer du temps.
Réinventer la manière d'afficher les territoires, il faut au moins prendre en compte, à mon avis, plusieurs spécificités, plusieurs choses. La première chose, c'est quoi? Il n'y a pas de retour en arrière possible. Ça veut dire que les territoires, en fait, ils ont été détruits. Il n'y a pas de retour. On ne peut pas redevenir breton, on ne peut pas redevenir languedocien, etc. Ces territoires-là, en fait, ils ont été complètement redécoupés en zone. fonctionnelle, en fait, avec encore une fois des zones industrielles, qu'elles soient agricoles ou pas, avec des zones qui sont patrimonialisées. Et je vais y revenir, mais les régionalismes qui s'inventent précisément, en fait, dans le cadre de cette destruction des territoires par l'industrie, c'est à ce moment-là qu'on les invente, fin 18e, etc., le folklore, tous ces trucs-là.
Mais la question qui se pose, parce qu'il a été beaucoup question d'autochtonie, j'ai du mal à prononcer le mot, même, des riverains. Donc, comment on fait sur ce triangle de Gonesse, sur ce plateau de Saclay, où les habitants et les paysans ont été expulsés, et depuis des dizaines d'années? Comment on fait quand il n'y a plus d'autochtones ou plus de personnes quasiment qui se sentent riverains?
Et quel est l'intérêt du biorégionalisme dans tout ça? Eh bien, c'est justement de faire vivre une alternative à la région mise en réseau pour faire fonctionner l'économie, le business individuel. Voilà. Et donc, du coup, l'intérêt du biorégionalisme dans tout ça, c'est que c'est un super outil pour créer des récits alternatifs depuis nos territoires, depuis nos régions. Là, c'est le concept de biorégion, il me permet tout de suite de rentrer dans cette boîte imaginaire et surtout de comprendre comment, en fait, le système industriel a transformé les régions naturelles et pour détourner leur mode de fonctionnement naturel. Et notamment, bon, là, c'est les bassins versants qui sont le super concept. En fait, bassin versant, c'est pas un concept autochtone, c'est vraiment un concept d'ingénieur. On a besoin du concept de bassin versant parce qu'on a besoin de comprendre comment l'eau s'écoule pour mieux la détourner. Donc en fait, l'usage du concept de bassin versant, pour moi, il permet de penser contre le système. C'est parce que le système a été aménagé en pensée en bassin versant, ou même pour subvertir le concept de bassin versant. À Marseille, il y a bateau sans l'eau de la Durance qui traverse dans un canal et sous la montagne de 100 km avant d'arriver à Marseille. C'est un exemple pour dire que pour moi, le concept de biorégion, là où il m'intéresse, c'est quand il me permet justement de comprendre la fabrique au niveau des infrastructures. En tout cas, moi, c'est ça qui me nourrit. Ça me donne envie de comprendre. Quand j'ai commencé à comprendre ça, je suis devenu fou. Et depuis, j'arrive pas. Je suis pris dans une frénésie où j'essaye de comprendre comment ça fonctionne. Partout où je me promène, j'essaye de voir passe par où les tuyaux. Et en fait, quand on rentre dans ce délire-là, tout de suite, on est en train de se battre contre le système parce qu'on montre, en fait, qu'est-ce qui est possible à côté de lui et comment c'était avant et comment c'est aujourd'hui. Deuxième angle régional qui me paraît vachement important, c'est, j'en ai dit un mot déjà, c'est le pouvoir économique. Le pouvoir économique, donc le business as usual, ce que je disais, il est organisé à des échelles régionales. Les échelles régionales, qu'est-ce qu'elles font? Elles managent la corruption, elles organisent des systèmes de corruption, c'est-à-dire de détournement de toutes les règles qui sont établies par le système lui-même. Les dirigeants régionaux et les capitalistes régionaux, ils ont une grande... Et c'est ça leur métier, en fait, c'est de contourner les règles. C'est de faire des billes, d'échanger du foncier. Ah, ben, t'as besoin de cette parcelle-là pour faire un entrepôt logistique. Alors, on va l'échanger avec celle-là. On va la faire passer en terre agricole. On va la faire passer en terre urbanisée. Et tous ces trucs-là, c'est là qu'il se passe vraiment la fabrique. Et nous, en fait, le problème qu'on a dans les luttes locales, c'est que le premier truc qu'on fait, c'est qu'on voit un projet. Ah, il est pas bien ce projet. Alors, on y va plutôt comme des gros courants, là. On va faire un soir avec nos pancartes. Nanana, on en veut pas, tralala. Mais après, du coup, peut-être on va essayer en justice, parce qu'on va s'armer de grands justiciers qui savent faire de la justice. Peut-être que si on a de la chance, on va gagner, parce que vraiment les politiques vont dire oui, c'est vrai, vous avez raison, on n'aurait pas dû, désolé. Et puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont foutre la sortie avec plus loin, et puis ça continue. Et en fait, on ne bloque rien.
Donc moi, je suis très impliquée dans la lutte pour les terres de Gonesse. Un peu pour, je te réponds, ouais, on n'est peut-être pas bon, mais on a réussi un truc à Gonesse. À faire trébucher un projet qui, il y a 4 ans encore, visait à construire un centre commercial géant, 500 boutiques, 2700 chambres d'hôtel, une piste de ski artificielle, comme à Dubaï. Ça, c'était il y a 4 ans, le président de la République, la présidente de la région et de France, les élus locaux proposaient encore ce projet. On a réussi à faire annuler ce projet. Alors, il y a plein d'analyses aussi sur comment on désarme un projet comme ça, comment on fait trébucher l'État, la région, les élus locaux. Moi, mon analyse, c'est qu'on a eu la force des faibles. Et la seule force qu'on a, c'est d'occuper. Donc, on a cultivé une parcelle pendant plusieurs saisons, quand on a été expulsé. C'est d'alerter. Localement,
régionalement, nationalement, internationalement. Et moi, mon analyse, mais peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, c'est qu'on a réussi à obtenir ce qu'on appelle en communication une atteinte à la réputation. La réputation du groupe Auchan, enfin de la famille Mullier, qui portait ce projet, qui était un projet privé de 3,1 milliards d'euros, mais défendu par l'État avec constance. Il a été imaginé par Nicolas Sarkozy à l'issue d'une discussion avec le PDG Auchan, puis défendu par François Hollande, puis défendu par Emmanuel Macron quand il était à Bercy, qui s'en vantait. L'atteinte à la réputation devient trop forte. Et ça, c'est aussi grâce aux amis de Notre-Dame-des-Landes, la peur du bourbier, la peur de l'enlisement. Et c'est un endroit où vivent les gens les plus pauvres en Île-de-France, parce que on est exposé au bruit nuit et jour. Il n'y a pas de couvre-feu. Tout ça, c'est issu de négociations. FedEx a obtenu du gouvernement qui n'est pas de couvre-feu. Donc les gens, ils vivent dans un bruit continu. Donc ça, je pense que c'est quand même intéressant, cette arme des faibles, c'est quand même d'exposer tous ces projets fous. Alors il y en a beaucoup, vous direz, et celui-là était particulièrement fou. Le gouvernement a décidé de maintenir la ligne de métro, qui donc ne doit plus rien desservir. Parce que le terminal 4 de Roissy a été annulé, Europa City a été annulé. Mais le gouvernement, au moment où il a annoncé, c'était Elisabeth Borne à l'époque, a annoncé l'annulation, donc en novembre 2019, de ce mastodonte commercial. Elle a annoncé dans un même élan le maintien de la ligne de métro. Donc là, on peut être encore plus choqué, parce que là, c'est de l'argent public, notre argent, qui va aller pour on ne sait pas quoi. Donc là, on a affaire à ce qu'on peut appeler... Et un sociologue des prises de décision, il appelle ça les erreurs persistantes et radicales. Persistantes parce que ça continue, et radicales parce que les discours officiels nous disent qu'il faut sauver les terres agricoles, le zéro artificialisation net, la souveraineté alimentaire, et dans les faits, on fait le contraire, avec de l'argent public. La ligne 17 Nord et la ligne 18 Ouest, d'après la Cour des comptes, c'est un risque d'endettement perpétuel. Donc c'est la Cour des comptes, hein, c'est pas les collectifs mobilisés. C'est à peu près 9 milliards d'euros d'argent public. On en fait beaucoup des choses avec 9 milliards d'euros. Pour justifier sur le triangle de Gonesse la construction de ce métro, annonce la construction d'un lycée tourné vers l'agriculture, il faut le faire, et un internat dans une zone où l'administration pénitentiaire a refusé de mettre des détenus parce qu'il y a trop de bruit. Ça me fait penser à la phrase de Mark Twain, je ne sais pas si vous connaissez. Pour un homme armé d'un marteau, tout ressemble à un clou.
Alors que faire par rapport à ça? Comment est-ce que maintenant on peut vraiment travailler à ça? Et c'est là où le concept de bio-région ne suffit pas. Il y en a d'autres pour justement s'armer, ou peut-être pour s'armer pour mieux désarmer l'adversaire.
C'est les féministes en fait, éco-féministes, qui vont rétablir en tout cas le paysage complet du problème, qui fait qu'en bout de chaîne, il faut toujours de la subsistance, et que le capitalisme, avec sa circulation invraisemblable, a permis des localisations de travail de subsistance dont nous récupérons les fruits par le temps libéré que nous avons. Et donc, une fois qu'on a fait ce qu'on a posé ce constat, comment on rétablit en fait les cycles de subsistance alors que les territoires ont été morcelés? Les foyers qu'on a sont particulièrement, je dirais, désertifiés. Moi, je pense qu'il n'y a pas plus désertique qu'un plan de travail mélaminé dans une cuisine équipée. J'ai un peu de mal à voir là quelque chose qui pourrait ressembler à de la matière qui se renouvelle. Je vois plutôt un régime de propreté aseptisé. Et donc, comment dans des biorégions... comme on l'a dit, sans chaîne de paysans, artisans en capacité et d'avoir des savoirs manipulaires et de réparer les machines ajustées à d'autres mains et pas standardisées, et de connaître exactement à peu près les besoins d'un milieu de vie. Comment on fait? C'est assez désespérant, mais là je trouve que là encore l'écoféminisme nous aide à un grand recours. Françoise Debord elle va, franco, elle démantèle, elle sabote, elle imagine la contre-violence.
Il faut désarmer, il faut démanteler, il faut rentrer dans les logiques, et donc si, pour moi, il n'y aura pas de région si on ne démantèle pas.
Elle dit, bah, les féminismes ou la mort, c'est-à-dire, oui, on peut s'appuyer sur cette, le savoir des bonnes femmes qui n'a pas encore été complètement restituré par le capitalisme, pour rechanger l'intégralité, pour imaginer faire basculer, si ces femmes s'unissent entre elles pour dire, oui, là... les savoir-faire du proche, repartager le travail de subsistance, relocaliser les énergies. De toute manière, c'est ce qu'on déjà on nous a cantonné, on a appris à le faire. Elle renverse ce stigmate pour en faire une puissance et une force. Donc ça, je pense que 50 ans plus tard, c'est compliqué. Mais pourquoi pas?
Il s'agit de repenser en fait les territoires qu'on habite. Il faut le faire à partir aussi justement de tout ce qu'on qualifie de nuisible, humain comme non humain. Parce que ces logiques-là, en fait, on peut les appuyer, on peut s'y allier pour, encore une fois, expérimenter, en fait, sur de nouvelles formes de territoire. Je crois que, et là, c'est l'exemple de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, elle défait précisément tous les grands partages qui sont constitutifs de notre société moderne et qui nous gouvernent. Ça veut dire, premier type de gouvernement, l'opposition entre les espaces humanisés et les espaces naturels, c'est le premier type qui nous dirige, en fait, pour une raison toute simple, c'est quoi? C'est que si pendant des siècles, en fait, on pouvait travailler directement le milieu qu'on habitait, s'y procurer de quoi vivre, en fait, hein, aujourd'hui, cette séparation entre la nature d'un côté et les espaces humanisés de l'autre, elle nous rend strictement dépendants. Ensuite, c'est pas bon, Schneider qui avait ça, la méga machine. Ça veut dire qu'ici, pour le dire très simplement, on dépend tous du supermarché.
De l'autre côté, on a Marianne et Véronique Benoît-Tonzen, qui, elles, nous disent que c'est dans le sud que ça se passe, c'est dans les pays du sud. Qu'on a une force gigantesque de groupes. Alors, elle projette, en tout cas, elle ne s'appuie que sur les femmes, parce qu'elles ne sont pas que des hommes tout le temps, donc on va prendre que des groupes de femmes. Et là, il y a encore des savoir-faire de subsistance, il y a encore des. Enfin, il y a des luttes en cours, comme elles prennent l'exemple d'une lutte où, dans les plantations de café, les femmes vont détruire les plantations de café, mais elles donnent un florilège, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment une pensée écoféministe non dogmatique, c'est-à-dire que plutôt que de donner un programme, elles donnent une vingtaine en fait de propositions entre lesquelles on peut piocher de façon située selon l'endroit où on est et l'état aussi des forces en place. Elles donnent d'autres exemples qui consistent notamment à faire de la politique tout en cultivant et tout en ayant dans les mains le savoir-faire de la subsistance. Donc elle ne sépare pas l'agora qui est le lieu où on s'isole pour prendre des décisions, qui est prendre particulièrement sur le logos en fait, de la pratique d'une culture, la culture du tarot, avec en Micronésie des groupes qui ont vraiment réussi à arrêter l'implantation du nucléaire et tout en maintenant la culture fondamentale du tarot. Et donc elle prend aussi cet exemple iconique hein, pour dire ce que aussi la Kropotkine dit dans la conquête du pain, c'est qu'on ne peut pas faire la révolution si on ne perpétue pas la subsistance. Et donc si on perpétue la subsistance, ça veut dire que les conflits, l'agora, tout ce qui fait l'âme devrait tout être en train de filer, je ne sais pas quoi, un bout de laine, faire la cuisine. Et c'est précisément ce genre de choses qui peut s'opérer dans des luttes comme Notre-Dame-des-Landes ou les soulèvements de la terre, où en fait le travail de montage intellectuel, conceptuel, militant n'est pas séparé du fait d'éplucher les pommes de terre. Et ça, je pense que c'est vraiment typiquement aussi ce que Sylvia Federici dit quand la cuisine ou le ménage est point zéro de la révolution, c'est quand on commence à séparer ces deux actions, c'est-à-dire se mettre en état où on ne fait rien de ses mains, en fait, et ben, ça, à partir de là, on commence à faire pied, en fait, avec une invention bio-régionale. Et donc, c'est pour moi la vertu principale, en fait, d'une réflexion écoféministe et féministe, c'est de nous. De considérer que la trivialité, en fait, l'attention constante et les mains occupées font partie intégrante des luttes et que c'est ça qui dessine, en fait, le futur bio-régionnel.
C'est 4%.
Il est 21h28, l'arpentaire du Zoom Écologie, c'est fini. Et en attendant l'émission Musique Antilles, on écoute, pour boucler la boucle, après le générique de fin évidemment, Agua de Marsos de Antonio Carlos Robim. C'était Louis et Lisa en esprit pour l'arpentaire. Bye bye tout le monde.
É uma cobra, é um pau.
É João.
É José.
É um espinho.
na mão é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
É pau,
é pedra,
é o fim
do caminho.
É um resto
de topo,
é um pouco
sozinho. É um passo, é uma ponte.
É um sapo, é uma rã.
É um belo horizonte.
É uma febre terçã.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau,
pedra,
são as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pá, pá, dá, pá, pá de baziza. Zá, zá, ziza. Azá, na, nhenha. Andá, dê, dê. Andá, dê, dê. Andá, dê, dê.